Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Bon, Mario a fait le lancement du sujet, donc je vous laisse dérouler maintenant.
Voilà, bon, j'ai presque plus rien à dire, sinon que l'opéra sans la technique, c'est épouvantable. En fait, ce sont les propos de Guillaume Gallienne il y a une semaine sur France Inter. Inutile d'en rajouter, effectivement, j'avais prévu une petite introduction. J'en retiens simplement de votre discussion que la mise en scène de Guillaume Gallienne, en quelque sorte, rate ses effets, ce qui est intéressant, puisque des mises en scène de ce genre, on va en avoir d'autres. C'est Julie Gayet, l'actrice qui mettra en scène demain soir les Noces de Figaro en plein air, cette fois on va en reparler. Et pour l'Opéra de Paris, c'est vrai que c'est devenu un peu une habitude, inaugurée je crois en 2002 par Colin Serrault avec le Barbier de Séville, que d'inviter effectivement des personnes qui ne sont pas habituées à la mise en scène d'opéra à mettre en scène des opéras. Justement, on confie des mises en scène à des personnes sans expérience, en tout cas de la scène lyrique, et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques années avec autant de succès public que de déception critique, il faut croire. Donc, l'Opéra de Paris, d'abord, y a recouru en 2014 avec l'actrice et réalisatrice Zabou Breitman pour l'enlèvement au sérail de Mozart, un opéra qui reste sur l'estomac, c'est ce que vous aviez écrit, Marie-Aude, mais vous n'êtes pas la seule, puisqu'il ne tient pas ses promesses, disait Le Point. C'est un retour sans fanfare, écrivait Christian Merlin, lui, dans le Figaro. Le plus indulgent est peut-être l'Express, qui botte en touche, en quelque sorte, avec une interview, qui a l'intérêt de nous apprendre que Zabou Breitman assume un parti pris esthétique orientaliste, la Turquie des années 20, pour cet enlèvement au sérail, car elle ne voulait pas, je la cite, un truc en costard et souhaitait, pour son premier opéra, tout simplement rentrer dans l'histoire, dit-elle, mais aussi, et c'était l'enjeu d'une soubrette blonde, elle voulait pour cette mise en scène quelque chose de sexy avec du vrai mélo. Voilà, le pari est réussi. Zabou Breitman, elle n'est pas une novice, hein, pas plus que Guillaume Gallienne dans la mise en scène. Elle a mis en scène au moins 10 pièces de théâtre, mais là, il s'agit, avec cet enlèvement au sérail, apparemment d'une fantaisie légère, un divertissement. Ce sont les commentaires qui reviennent le plus pour cette œuvre du répertoire, et déjà bien marquée aussi, puisqu'elle avait été montée la dernière fois par Giorgio Strehler à l'Opéra Bastille, lui-même issu du théâtre, comme quoi il n'y a pas de fatalité. Mais se pose donc en tout cas la question de la légitimité de ces opérations, dont certains se sont fait, il est vrai, une spécialité en France. C'est le cas d'Opéra en plein air, une association, voire une entreprise qui renouvelle chaque année l'invitation d'une star, donc Julie Gayet demain, qui met en scène les Noces de Figaro. Et c'est vrai que la suite de la programmation des dernières années est un programme aux allures de guest list. C'était Jacques Attali pour La Bohème l'année dernière, Ariette Lombal, Patrick Poivre d'Arvor en 2014, Elie Chouraki. Et évidemment, pour cet opéra là de Julie Gayet, pas encore de critique, sinon un bon mot du Figaro au début de l'année. Enfin, un mariage pour Julie Gayet, elle prépare les Noces de Figaro. Mais attention quand même, prévient Madame Figaro, son rapport à l'opéra est, je cite, intime. Il n'est pas dû au hasard, puisque l'actrice et productrice s'est en effet essayée plus jeune à la musique classique et a chanté l'air de Barberine. Voilà, toutes les tentatives ne sont quand même pas dénigrées, hein. La Traviata, montée par Ariel Dombal en 2015, était une représentation magistrale pour le Courrier de l'Heure. Elle a même ému la ville d'Arouet en Meurthe-et-Moselle, disait l'Est républicain. French Cancan et Go-Go Boys au torse nu ont recréé l'atmosphère des fêtes romantiques dans la vision d'Ariel Dombal, même si elle se défend du romantisme dans une interview, ou encore cette Cenerentola joyeuse remarquée par tous à l'Opéra de Lille l'année dernière, par Jean Bellorini, lui issu du théâtre également. En tout cas, en 10 ans, expliquait La Croix en 2010, Opéra en plein air a su faire une machine rentable avec des opéras connus, dans des cadres de prestige, une affiche médiatique et des chœurs, je crois, bénévoles, le tout en revendiquant l'anti-élitisme pour des tarifs finalement au plus fort assez semblables à l'Opéra de Paris, 210 €. Là aussi, c'est une formule qui marche, écrit La Croix. D'ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor, à la mise en scène jugée brouillonne en 2010, a quand même été de nouveau choisi plus tard pour Don Giovanni, donc en 2014. L'Opéra de Paris aussi a ses valeurs sûres. Colin Serrault avec le Barbier de Séville, donc 2002, puis Manon 10 ans plus tard. Et j'ajoute, pour terminer, je pourrais en reparler, que la France n'est pas seule. Il y a aussi une tendance anglo-américaine à choisir des réalisateurs de cinéma pour mettre en scène les opéras. Sofia Coppola, Terry Gilliam, avec une réception diverse. Alors, démocratisation, marketing ou véritable plus-value scénique, que pensez-vous globalement de ces opérations?
Et puis on peut rajouter Woody Allen aussi, on avait parlé ici du DVD de sa production pour l'Opéra de Los Angeles. J'ai oublié ce que c'était d'ailleurs, c'est pas bon signe, mais c'était plutôt assez drôle et enlevé. Et puis on n'avait pas cité un bon exemple, qui est celui de Michael Haneke, qui a signé à Paris Don Giovanni et à Madrid et Bruxelles Così fan tutte, qui là, pour le coup,
c'était
des très grandes réussites. Donc, alors, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle ? C'est une autre histoire. J'ai pas vu la production de Sofia Coppola. Si d'ailleurs, si je ne l'ai vu à la télévision, ça avait l'air assez catastrophique, me semble-t-il. Mais ouais, bon, nécessité d'aller chercher ailleurs, pourquoi pas hein. C'est pas.
Le principe est pas blâmé. Après, c'est un coup de poker. Et puis, malheureusement, quand même, on a une petite expérience maintenant qui nous fait dire que 9 fois sur 10, ça rate son coup, quand même, de façon manière générale. Parce que l'opéra, c'est quand même quelque chose de particulier. Il y a toujours cet écueil hein, de la musique et on fait pas ce qu'on veut avec un temps qui est musical d'abord.
Et c'est ce que disait Chéreau. Exactement. Le problème de l'opéra, c'est la musique.
Et voilà. Donc, ils illustrent. Pour revenir à comment s'appelle-t-il déjà opéra en plein air. Je crois que j'ai dû assister à un demi Don Giovanni une fois parce que je suis partie à l'entracte parce que j'ai trouvé ça mais tellement irrespectueux du public que c'en était. Alors oui, on prend des têtes d'affiche qui, à mon avis, sont quand même certainement payées assez grassement. Et puis à côté de ça, on n'a pas un chanteur dont on a entendu parler quelque part. On a des chœurs, c'est-à-dire toute la partie musicale, est complètement en dessous du niveau de la mer. C'est-à-dire qu'on cherche même pas à donner l'œuvre musicale. On bâtit ça sur le nom, bon, Julie Gayet, PPDA, tout ce que vous voulez, et on fait croire aux gens que c'est ça l'opéra. Donc
Mais c'est parce que c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions épouvantables, qu'ils n'ont pas de bons chanteurs. On les fait jouer en plein air, dans des conditions pas possibles. Ils ont je sais pas combien de représentations. Enfin, donc ils ne peuvent pas techniquement trouver des chanteurs des chanteurs dignes de ce nom qui acceptent ces conditions. Par ailleurs, l'orchestre, c'est hallucinant ce qui se passe dans la fosse. C'est sonorisé, mais d'une façon, mais délirante, quoi. C'est vraiment. Moi, j'en ai vu deux. J'ai vu Carmen de Patrick Poivre d'Arvor et La Traviata d'Ariel Dombal. Honnêtement, c'est même pas un problème de metteur en scène. Hein. C'est un problème de tout. Enfin là, c'est pareil, c'est la conjoncture. Ça n'est pas possible de faire quelque chose de correct quand l'orchestre fait n'importe quoi en étant sonorisé, que tout le monde se. Ça n'a aucun sens, quoi.
Ça, c'est un cas à part, on va dire, mais très particulier. Mais quand
j'entends que les prix sont à
200 pour les plus chers.
C'est hyper énervant parce que les gens pensent que c'est ça l'opéra.
C'est la démocratisation.
En plus, c'est pas une démocratisation financière, ça coûte moins cher d'aller.
Démocratisation de l'opéra.
Voilà, et donc ils vont aux Invalides. Alors le cadre est beau, etc. En plus, c'est extrêmement mondain. Enfin, c'est un peu dégoûtant, franchement, tout ça. C'est un peu. Moi, je trouve ça un peu difficile comme
concept. En tout cas, ce qui est bien, c'est que en tout cas, pour revenir à l'opéra de Paris, à d'autres opéras d'ailleurs, quand on a une tête d'affiche, c'est sûr, on va avoir 50 000 avant-papiers. Donc, au moins, le public est informé d'une production. Après, effectivement, il y a souvent un avant et un après. Il y a tous les reportages, toutes les interviews, tous les portraits. Et puis ensuite, il y a les critiques qui parlent. Et je crains que sur cette chaîne Rento-là, on soit à peu près quand même globalement tous d'accord. Même si effectivement, il y aura toujours des voix discordantes. Mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Au fond, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y a quand même suffisamment de metteurs en scène. S'il faut aller chercher des gens nouveaux, la prise de risque, elle devrait plutôt aller à nous sortir des talents justement qu'on ignore et pas aller chercher des gens que tout le monde connaît en essayant de voir s'ils sont compatibles avec l'opéra.
Mais il y a une question quand même d'accompagnement aussi, parce que se faire venir quelqu'un et se tenter un pari, il faut aussi que suivre le travail, peut-être. C'est une question aussi. Alors, je sais que pour Opéra en plein air, il y avait des grands noms qui signaient, mais il y avait quand même des petites mains qui assistaient.
Oui, c'était Manon Savary, par exemple.
Et plus que ça, vous le dites. Donc voilà. Comment on les aide aussi, ces gens, à venir alors vers les grandes maisons aussi, ce qui nous intéresse peut-être davantage ce soir, Xavier Martinet.
Oui, il me semble qu'il y a de toute façon une question de programmation et de choix des directions aussi de ces opéras. Évidemment, puisque comme vous le dites, ce qu'on remarque assez systématiquement, c'est que bien sûr l'affiche est belle, mais que les plateaux, et notamment les plateaux musicaux, sont faits un peu au rabais. Quand je parle de chœur amateur, c'est un peu ce dont on a l'impression. De la même façon, je lisais quelques papiers sur Guillaume Gallienne, effectivement, effectivement, c'est pas forcément les meilleurs chanteurs qu'on a pris, peut-être, et pour cause.
Non, je crois pas, non. Non, faut pas c'est mélanger, ça n'a rien à voir. Les chœurs d'opéra en plein air et les chanteurs, bon, qui sont pas totalement là, il se trouve que la distribution est ratée, mais de l'Opéra de Paris, c'est pas du tout comparable.
C'est pas un
comme,
choix de mettre.
Non, c'était un mauvais concours de circonstances, oui, je dirais, là, en l'occurrence.
Disons-le comme ça. Simplement pour.
Elle le dit, elle le pense comme ça. Elle nous informe, Xavier.
Pour continuer, disons, j'avais précisé qu'il y a effectivement le même choix qui est fait depuis pas mal de temps, à peu près 10 ans ou 15 ans, par des institutions étrangères. Donc il y avait l'Opéra de Los Angeles, il me semble, pour Woody Allen, qui a repris Woody Allen d'ailleurs un peu plus tard, et qui a des choix qui, pour le coup, semblent tout à fait pertinents et des choix véritablement ciblés. Là, c'est le cas pour Wim Wenders, par exemple, qui doit présenter un opéra à l'Opéra de Berlin l'année prochaine. Donc bientôt. À la fin du mois de juin, ce sera Les Pêcheurs de Perles. C'est pas forcément l'opéra, on pourrait dire, le plus connu.
On attendait Wim Wenders.
Non, mais je crois que c'est lui qui a choisi.
Oui, mais c'est ça qui était intéressant.
De mettre en scène.
Donc, pour le coup, on peut faire confiance à un véritable parti pris esthétique, en tout cas là-dessus, une véritable intention de la part de Wim Wenders, qu'il n'y a pas forcément quand on est un grand nom invité pour une représentation, même si on a des affinités avec l'opéra.
Bon, à suivre. Vous allez voir Wim Wenders à Berlin. Votre calendrier est bien rempli.
C'est pas dans mes priorités, mais pourquoi pas. Bon. Ce serait certainement intéressant.
Il y aura un autre débat à voir sur effectivement les metteurs en scène de théâtre qui vont vers l'opéra et qui sont demandés aussi par les opéras. C'est que pour l'instant, Thomas Ostermeier est à peu près le seul à avoir résisté, mais ça va peut-être pas durer. Suspense.
Eh ben oui, parce qu'il gagne plus d'argent aussi à l'opéra, il faut bien le dire.
Il gagne
beaucoup plus d'argent.
C'est ça, oui.
Bon. Ah ben oui.
Mais enfin, ceux à qui on demande généralement ne sont pas ceux qui manquent de travail au théâtre.
Oui, c'est
donc
vrai.
C'est peut-être pas suffisant pour les.
Enfin, une maison de campagne à chaque production, c'est pas mal non plus.
C'est à ce point-là?
Ah,
vous avez les chiffres.
Non, j'ai pas les chiffres, mais j'ai les.
Ça dépend dans quelle campagne.
Voilà, ça dépend dans quelle campagne.
C'est en Basse-Saxe ou bon, en Rhénanie. Bon, on verra ça une autre fois. Vous nous donnerez des chiffres, j'espère, Marie-Andrew. Bon, laissons les représentations se passer.